Nous accueillons Malika maintenant. Bonsoir Malika.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Malika, comment allez-vous ?
Ça va, merci. Et vous ?
Bah écoutez, ça va.
Ça va bien ?
Oui, oui, ça va, ça va.
Bah écoutez, je suis très ravie d'avoir la chance d'intervenir directement avec vous. Je vous en remercie chaleureusement.
Je vous en prie, je vous en prie. Alors dites-moi ce qui vous amène, ma chère.
Bah écoutez, donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que bon, il ne me concerne pas moi en tant qu'individu, mais c'est des anonymes, c'est 25 000 personnes par année qui sont concernées. Donc c'est de ce qu'on appelle communément un mariage gris, c'est-à-dire des gens qui usent de la naïveté de nos compatriotes pour organiser un mariage, venir s'installer en France, mais en réalité, c'est un détournement des lois, quoi. C'est la motivation essentielle et l'obtention des papiers. Mais les victimes souffrent énormément et personne ne parle pour eux.
Et comment... Racontez-moi un petit peu comment tout ça s'organise, parce que on entend souvent parler de ça, comme ça. Des gens parlent de mariage blanc, mariage arrangé. Mais comment tout ça s'organise, en fait ?
Bah, c'est vrai. Il est connu qu'il existe des filières, mais il existe des innocents aussi qui tombent dans le filet. Donc, c'est par les réseaux sociaux. Donc, c'est une véritable chasse à l'homme ou à la femme, parce que le mariage gris concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc, c'est des individus qui sont en dehors de notre pays et qui connaissent les lois généreuses du pays et qui ont une seule envie, venir, pas pour servir le pays, mais pour se servir, user et abuser des lois généreuses du pays. Ce qui n'est pas sans incidence sur le quotidien de tous les étrangers qui vivent en France. Des gens comme ça, qui viennent uniquement pour des intérêts, ça éveille quand même à un moment donné une certaine haine, une certaine méfiance à l'égard de l'autre. Et du coup, les gens qui sont installés durablement en France et qui vivent normalement, qui sont bien intégrés, ils souffrent aussi. Donc, comment ça s'organise ? Les gens ont envie, tout simplement, de venir en France pour fuir, c'est vrai. Il y a des massacres, il y a des guerres dans certains pays. Et cela, c'est une légitimité de chercher la sécurité. Mais il y a d'autres, c'est un confort qu'ils cherchent.
Bon, ça, il est certain que vu la liberté, déjà, qu'offre la France à tout point de vue, le confort qu'offre la France à tout point de vue par rapport à d'autres pays où la liberté est bafouée, où on évoque souvent ici les soins, l'école qui est gratuite en France aujourd'hui. Et quand je dis les soins, c'est aussi les opérations, enfin tout un tas de choses qui dans d'autres pays sont même hors de portée pour beaucoup. Donc on peut comprendre d'autres personnes aient envie de venir vivre dans ce pays. Mais vous, je crois que vous avez une histoire à me raconter, en fait, qui concerne votre frère.
Exactement. J'allais en venir. Bah, écoutez, donc moi, j'ai un frère qui était en couple, on va dire, avec une journaliste, parce qu'il exerçait lui aussi le métier. Malheureusement, vu les années qu'a connu un pays très proche de la France et qui est l'Algérie, donc sa copine a été assassinée. Du coup, il a été marqué, voyez-vous.
Oui, oui. Donc, elle a été assassinée dans quelles circonstances ?
C'était par le GIA à l'époque. C'était
d'accord.
La décennie noire en Algérie.
Donc le GIA, je précise pour ceux qui, c'est celles qui ne connaissent pas, ce sont les groupes islamistes radicaux en Algérie.
Oui. Donc qui ont été quand même arrêtés, quoi. Il y a eu quand même une lutte acharnée du peuple et qui a permis quand même leur atomisation. Mmh. Donc je reviens. Il était tout seul. Ça faisait mal au cœur, quoi, parce que c'était un bon vivant, c'était quelqu'un plein de vie, et il était artiste en même temps. Donc et puis le voir tout seul, isolé comme ça, Donc, ça, on était en souffrance, toute la famille, et dans nos familles, dans les familles maghrébines, vous savez qu'il y a, une espèce de ce mot, enfin, on est très, très famille, je vais dire. Mm-hmm. Et puis, donc, le fait de le voir comme ça, esselé, causait beaucoup d'inquiétude. Et du coup, moi, je vous le dis, hein, c'est moi-même qui suis à l'origine du malheur de mon frère. Et bah, qu'est-ce que vous laissez comme ça? Donc, un jour, il y a une fille qui me contacte sur les réseaux sociaux.
Oui.
Une fille de ma ville natale. Mm-hmm. Donc, j'ai répondu. Donc, on a échangé quelques fois. Et puis, elle s'est mise à se plaindre de l'Algérie, des conditions de travail, du comportement des gens et tout ça. Et puis, donc, elle a su que j'avais un frère qui n'était pas marié. Donc, elle m'a demandé des nouvelles de mon frère. Je lui ai dit, non, il n'est pas marié. Elle m'a dit, bon, qu'elle aimerait bien faire sa connaissance. Je l'ai présenté et de là, ils se sont. C'était très vite, hein,
oui.
Parce que son plan était bien, bien organisé, c'était très vite. Donc, je ne dis pas qu'ils se sont connus, parce qu'ils ont pris contact au mois de mai, au mois d'août, ils étaient mariés.
Ah oui, donc ça a été très vite. Ils ont fait connaissance sur à travers Skype ou comment se parlait-il?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
À travers Skype.
D'accord.
Oui. Et puis donc, et puis quand il était parti, c'était pour célébrer le mariage. Donc le mariage a eu lieu en août 2014. Donc la fille qui n'a jamais quitté l'Algérie, qui n'a jamais mis les pieds en France, donc avec la procédure du regroupement familial. Donc, elle est arrivée au mois de septembre, en France, septembre 2014. Donc, de là, elle connaissait pas. D'abord, elle avait des difficultés, donc on a œuvré d'abord pour son intégration, parce que, elle est arrivée avec des... Elle ne connaissait pas la culture ni le milieu, quoi. Donc, au bout de 2 ans, donc il a fait les démarches, elle a obtenu ses papiers. C'est lui qui travaillait, donc elle ne travaillait pas. Mm-hmm. Et elle ne voulait pas travailler, donc elle ne voulait pas travailler parce qu'elle avait un plan en tête. Donc, en 2016, elle a accouché au mois de mars 2016. Donc, elle est restée en clinique et à sa sortie de clinique, un soir, elle a pris ses affaires, elle a pris le petit et elle était partie.
Sans raison.
Sans raison.
D'accord.
Mais elle avait ses raisons parce que pour elle, la naissance du petit lui garantissait d'abord le maintien sur le sol français et puis lui garantissait des revenus, si vous voulez, des revenus de la CAF.
D'accord.
Donc, elle gagnait plus. Si vous voulez, c'est des gens qui font des calculs. C'était une personne vénale, donc qui savait ce qu'elle faisait. Et malheureusement, comme je le disais tout à l'heure à Florian, c'est pas les gens qui ont besoin qui en profitent le plus. C'est surtout les opportunistes. Donc elle s'en va avec le petit, et puis donc elle l'utilise. Un sujet qui est très, 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 très sensible, je dirais. Elle se présente au commissariat, elle dit qu'elle a été violentée, alors qu'elle n'a ni certificat, ni rien du tout. Donc, vous savez, c'est difficile hein, pour les uns et pour les autres de faire leur métier. La police ne peut pas faire le métier puisqu'il y a un discours ambiant qui est celui de la violence faite aux femmes. Et du coup, personne ne veut prendre le risque de regarder,
oui.
Vraiment. Donc ça s'arrête, violence. Je ne cherche pas à savoir. Toujours est-il que les policiers qui ont eu à intervenir ont quand même vu qu'il n'y avait pas vraiment de violence. Donc ils n'avaient été ni en garde à vue,
Elle n'a pas été, votre frère n'a pas été inquiété et elle n'a pas été soupçonnée d'avoir menti, c'est ça?
Non. Pas du tout. Et pourtant, c'était visible, c'était flagrant. Donc, du coup, elle se retrouve dans un foyer. Donc,
ouais.
D'abord, elle a été placée dans un hôtel aux frais des contribuables. alors qu'elle n'était pas, sa situation ne le demandait pas. Il y a des milliers de femmes, c'est peut-être, j'exagère en disant, mais des centaines de femmes qui souffrent vraiment et qui meurent tous les jours sous les coups de la violence, mais c'est pas celles-là qui vont se plaindre les premières. Elles ont du mal, quoi. Donc, elle est placée dans un hôtel, après dans un foyer, toujours au frais des contribuables. Et le travail des associations. Donc, elle avait tout simplement été parrainée par une association. Donc, il y a certaines associations qui vraiment jouent le rôle, honnêtement, mais d'autres qui sont à l'affût des chiffres, donc qui cherchent à faire du chiffre, et du coup, ne cherchent pas à savoir à partir du moment où elles ont eu un cas de femme, ben, c'était un recensement, ça devient du chiffre partout. Donc cette dame-là est partie. Donc il y a une procédure de divorce qui a été engagée.
Enclenchée, oui.
Oui. Donc, mais non seulement je vais vous surprendre, Olivier. Je sais que c'est donc cette dame-là, donc mon frère qui travaille depuis toujours en France et qui paye ses impôts, cette dame-là se trouve avec plus de revenus que lui sans travailler.
Et comment en fait elle reçoit? Quel type d'aide, en fait?
Des allocations familiales.
Mais pour
allocations...
un enfant?
Écoutez, moi, je vous le dis, elle est à 1 200 euros.
D'accord.
1 200 euros, sans compter les bons de vacances, sans compter les bons alimentaires, sans compter... en plus de ça, par exemple, mon frère, il a payé l'avocat, son avocat, il a payé. Elle a eu une aide juridictionnelle. Elle n'a pas payé d'avocat. Il y a une espèce, en fait, c'est des lois généreuses, mais à un moment donné, il y a une injustice, quoi. C'est quand même pas normal que des gens qui travaillent, des gens qui sont intégrés, puissent être malmenés et victimes des propres lois de notre pays.
Ça, c'est un vaste débat, Malika. Malheureusement, ça n'est pas mon rôle, hein, bien évidemment, de commenter ce genre de choses. Je vois simplement, j'entends dans l'histoire qui est la vôtre ce soir et qui est celle de votre famille, celle de votre frère, j'entends comme la résonance d'une tromperie orchestrée dès le début par cette femme. Vous avez l'air de penser que quand elle vous contacte, elle a déjà en tête ce plan un peu machiavélique, c'est-à-dire de se marier et puis ensuite de quitter. Hein, pour,
oui.
Vous pensez que c'était ça son plan?
Exactement, c'est tous ces jeunes, hein, qu'on voit quelque parfois traverser la Méditerranée, mais il y a plusieurs voies pour quitter la France et le pays pour venir en France. Et ça devient en fait, même les gens qui sont là depuis des décennies, depuis toujours, sont impactés par ce comportement. Et puis bon, je vous ai cité le cas de mon frère, mais c'est 25 000 cas par an en France. De duperie, de tromperie au mariage, au sentiment. Et puis, mon frère avait écrit au procureur, par exemple, pour demander l'annulation du mariage, en apportant les preuves que c'est un mariage gay. Il n'a pas eu de réponse.
Parce qu'il a voulu faire annuler le mariage, votre frère, après?
Oui, oui. Oui, alors, dès qu'il s'est rendu compte, donc c'était visible, hein, dans le comportement, dans l'attitude, c'était de tout de suite chercher comment gagner de l'argent, alors que nous avons une famille qui travaille, nous sommes on est des cadres, on travaille, donc c'était pas du tout notre registre. Donc elle s'est rapprochée de gens qui vivent que de social et c'est ce qu'elle voulait. Je crois qu'avant de venir même, c'était programmé.
On va continuer à évoquer votre histoire et vous allez me dire un peu comment ça s'est soldé. On va laisser passer l'information sur Europe 1 si vous voulez bien,
oui,
Malika,
bien
et on
sûr,
se retrouve
merci.
Juste après, d'accord? À tout
merci.
De suite. 23h passées de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas, chers amis, vous pouvez composer le 39-21 et Natacha et Florian sont en régie et attendent vos appels si vous avez envie de me parler de vous. Pour le moment, nous sommes avec Malika qui évoque la mésaventure de son frère marié à une jeune femme qui, une fois arrivée d'Algérie, est tout simplement partie, prétextant des violences. Malika, ce qui est important aujourd'hui, c'est votre frère, finalement. Comment va-t-il ?
Vous savez qu'on ne sort pas indemne d'une telle expérience. D'abord, le choc de la tromperie, le choc de la dupe. En plus, il venait d'avoir un enfant.
Oui.
Il va pas très bien.
Il va pas très bien. Est-ce qu'il arrive à voir son enfant, au moins ?
Oui, il a eu quinture 2, il allait pendant les vacances. Il le voit. Il le voit, mais je vous dis, comme l'enfant, enfin, je vous le dis, c'est une observation personnelle. Donc, l'enfant, comme il a passé ses premiers mois, ses premières années dans un foyer, j'imagine, hein, j'ai pas jamais été dans un foyer, mais j'imagine l'ambiance qui doit régner dans un foyer. Par exemple, l'enfant, qui devait à l'âge d'un an, il rejetait toute la présence féminine.
Oui.
Il hurlait. Il voulait pas. Il venait chez moi avec mon frère. Il voulait pas me voir. Il me demandait de partir. Et on me demandait carrément de sortir. À chaque fois qu'il voyait une femme, enfin, nous, on pense que c'est l'ambiance dans laquelle il a vécu, c'est le foyer qui a fait que ce soit comme ça. Donc, et en plus, donc, c'est un enfant qui aujourd'hui a quand même, il est né en 2016, il a 4 ans, mais qui a un retard de langage et personne ne s'inquiète. Personne ne s'inquiète. Il a un vocabulaire très réduit, il a des réactions très, 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 très violentes, mais personne ne s'inquiète, quoi. Et quand mon frère demande à le présenter à un orthophoniste ou à un psychologue pour voir ce qu'il... Donc, elle refuse systématiquement.
Quel âge a-t-il aujourd'hui, vous m'avez dit ?
Il a 4 ans.
4 ans, d'accord, oui.
Mais avec un vocabulaire très réduit. Hein.
D'accord. Et sa maman, en fait, l'ex-femme de votre... Bon, le divorce a été prononcé, ça y est ?
Oui, il y a pas longtemps.
Elle vit toujours dans un foyer, là, actuellement, ou elle a bougé ?
Non, parce qu'après, elle est prioritaire pour le logement. Donc, elle a eu un logement. Elle habite toujours en France, quoi. Mais en fait, elle a usurpé un statut qui n'était pas le sien. Parce que elle est passée avant d'autres gens qui attendaient des logements pendant longtemps, mais au motif qu'elle soit mère célibataire d'un enfant, et puis avec le prétexte de violence, parce que ça marche à tous les coups, donc elle a bénéficié d'un logement, mais il n'y a pas très longtemps.
Mmh. Vous savez, Malika, c'est l'histoire, en fait, c'est une histoire. Assez tragique, hein, finalement. Ça l'est pour votre frère, ça l'est pour cet enfant, ça l'est aussi pour cette femme qui avait, de toute façon, il faut aussi, vous le savez, vous, qu'il y a des motivations précises pour quitter, hein, l'Algérie et pour pouvoir venir vivre en France. Ce qui est bien évidemment malheureux, c'est que, bon, voilà, ça soit tombé sur votre frère. Mais j'ai du mal, si vous voulez, moi, à en vouloir à cette femme d'avoir voulu quitter l'Algérie et d'être passée par ce moyen-là. C'est sûr que c'est pas, voilà, ça n'est pas honnête et c'est faire des dégâts autour de soi. Mais c'est toujours compliqué de juger d'une situation comme celle-là parce que je sais que lorsqu'on vit sans liberté, qu'on vit dans la pauvreté, qu'on vit et que l'on sait que de l'autre côté, là, de la Méditerranée, obligatoirement, les conditions de vie s'arrangeront, quoi qu'il arrive. C'est difficile de juger cela. Vous voyez, pour moi, c'est... Et je pense qu'il faut que vous oubliez vite cette histoire. Il faut que vous essayiez de mettre cette histoire derrière vous, parce que c'est l'histoire de l'humanité, ce qui se joue dans l'histoire que vous me racontez ce soir. C'est l'histoire de tout un tas d'êtres humains mais qui aspire à vivre mieux, en fait. Et ça, moi, je...
Pardon.
Je le comprends.
Il n'est pas interdit de rêver, encore tant mieux. Mais si les gens ne se sentent bien, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou d'autres pays, hein, ou que les gens veulent quitter leur pays, il y a beaucoup de gens qui... Je vais vous le dire, moi-même, j'ai quitté l'Algérie. Il y a des, mais ça ne m'a pas, ça ne m'a pas empêché. Au contraire, j'ai rencontré des gens qui ont fait de ma différence une richesse. J'ai avancé et puis je vous dis, je suis cadre supérieur.
Oui, mais c'est, je pense, vous savez...
J'ai travaillé, j'ai pas cherché les allocs, excusez-moi.
Malika, c'est la grande majorité des personnes qui ont connu la pauvreté, qui ont connu le manque de liberté et qui ont réussi à venir ici, en France, comme partout en Europe, hein, et qui sont des gens comme vous qui ont transformé cette différence en richesse et qui sont 10 fois plus courageux et qui travaillent et dont on n'entend jamais parler, hein, finalement. On n'entend parler que de ceux qui, pour diverses raisons, n'y arrivent pas et font des bêtises. C'est malheureux, bien évidemment, c'est malheureux.
On nous a donné, mais on a apporté aussi.
Hein, bien
parce
sûr,
que
bien
j'ai 4 enfants qui sont des cadres dirigeants dans des sociétés. C'est ma fierté, mais c'est aussi la fierté de la nation. Quoi. C'est,
et vous pouvez être fier, bien sûr.
Oui, d'accord, mais moi, c'est ce que je déplore. Je suis d'accord que des gens... puissent, mais il est de notre devoir aussi de dire les choses clairement qu'on peut, pour reprendre une expression célèbre, la France ne veut pas accueillir toute la misère du monde. Une expression célèbre de Rocard, hein, qui est un socialiste. Donc pour dire que nul n'a le monopole de la générosité du cœur. Donc il faut à un moment donné aussi jouer franc jeu et se rendre compte de la réalité. Les gens peuvent être aider les pays, quoi, ne pas s'immiscer dans les affaires internes des pays, laisser les démocraties se développer. Il n'y a pas qu'une démocratie uniforme, il y a plusieurs démocraties et il faut accepter qu'il y ait plusieurs démocraties aussi.
Oui, mais vous savez comme moi, Malika, qu'aujourd'hui, l'Algérie est un pays ultra corrompu où les généraux s'en mettent plein les poches et où aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres dans ce pays. Donc, vous le savez, vous qui êtes algérienne, vous savez que...
Oui. Il y a de la corruption, c'est vrai. Je ne dis pas qu'il y a de la corruption. Il y a de la corruption. Donc là, il y a eu un mouvement quand même national très
important.
Très tenu, hein.
Oui.
Le Hirak, donc, ce qui est une émanation spontanée de la jeunesse, mais pas que de la jeunesse, des femmes et des cadres algériens, et qui a abouti quand même à la chute d'un dictateur, hein, qui a régné pendant 20 ans sur l'Algérie. C'est même pas lui qui régnait à la fin, c'était son frère. Donc il y a un renouveau, il y a un espoir. Donc et moi je crois aux Algériens, je crois au peuple algérien. Mais excusez-moi Olivier, mais parfois il y a des clichés. Donc l'Algérie, c'est pas ce qu'on dit pour connaître l'Algérie et l'Algérien. Il faut y être, il faut y aller.
Oui.
C'est assez complexe. D'abord, l'Algérie est une nation. Hein. C'est pas, il y a pas que, il y a pas des. C'est une nation. Elle est composée de Berbères. C'est une nation millénaire, hein, composée de Berbères, de Kabyles, de Chaouis, de Mozabites. Donc, c'est toute une richesse. Je suis d'accord quand vous parlez de la corruption et de la pauvreté, mais il y a une richesse aussi. Vous savez, vous n'allez peut-être pas me croire, vous partez en Algérie, tout le monde vit. Ils ont tous un petit business, mais c'est la corruption qui fait ça.
Oui,
tout le monde
oui.
a un commerce, tout le monde a de quoi vivre, si vous voulez, en Algérie. Contrairement, par exemple, à d'autres pays voisins. En Algérie, le marché parallèle, l'illicite, ça bat son plein. Mm-hmm. Chaque Algérien vit à un revenu. Il n'a pas une petite boutique devant sa maison, c'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est la corruption, c'est aussi c'est pas producteur. Si vous voulez, ça ne résout pas le problème du chômage puisque c'est informel. Ça ne résout pas la crise économique parce que c'est informel.
Oui,
donc
bien
ça
évidemment.
Ça n'apporte pas de richesse. Mm-hmm. Ça n'apporte pas de richesse. Si
Et vous,
voulez.
Convenez avec moi que l'Algérie est un pays riche qui devrait être tout de même peut-être un peu plus développé, en tout cas mettre. On devrait injecter un petit peu plus d'argent pour la population. Si vous voulez, moi, ce qui m'embête, c'est de voir aujourd'hui des gens qui vont à la fac et qui préparent des études de médecine ou des études d'ingénieur et qui sortent, qui n'ont pas du tout de boulot, quoi, et qui ont des perspectives vraiment bouchées.
Oui.
Et vous voyez, et donc, ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure, c'est l'envie de ces jeunes gens à 26, 27, 28 ans après de brillantes études, de pouvoir mettre à contribution toutes leurs connaissances qu'ils ne peuvent pas mettre à contribution dans leur propre pays. Bon, ça n'est pas le cas de votre ex-belle-sœur, hein, bien évidemment, mais je comprends que ces gens-là aient envie d'accéder à une vie meilleure, en fait. C'est juste
mais
ça.
Mais il y a une hémorragie des cadres aussi, ça, vous le savez très bien, vous savez mieux que moi peut-être, une hémorragie des cadres. Et qui va construire ? Donc il y a laissé le champ libre, si vous voulez, à la corruption, à la médiocrité. Mm-hmm. Il y a dirigé le pays. C'est aussi la fuite des cerveaux, la fuite des cadres algériens, encouragés certainement par et poussés par la Malvie. Je suis d'accord avec vous.
Restez en ligne avec moi, Malika. On fait une petite pause et je vais vous mettre en relation avec Annick qui souhaite échanger avec vous et vous raconter son histoire. À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h17, vous êtes sur Europe 1. Vous pouvez composer le 39-21 si vous souhaitez échanger avec moi. Au courant de cette soirée, nous avons Annick au 39-21. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Annick.
Enchantée Olivier.
Enchantée.
Je suis une vieille, meilleure de nuit, j'ai dit à votre collègue.
Ah.
Une très vieille madame.
Une très vieille madame.
Oui, oui.
Il n'y a pas de très vieille madame, il n'y a que des dames.
Voilà, hein? Oui, mais bon, j'ai quand même vu les meilleures de nuit, vous comprenez que j'ai quand même quelques dizaines d'années.
D'accord. Alors Annick, Malika vous écoute et...
Malika, oui, ben ça, la référence de son frère avec son problème qu'il a eu, bon, il a épousé ou il a eu une femme qui est venue d'un pays de l'Afrique et
d'Algérie,
voilà. Donc il s'est marié. Moi, j'ai une amie ça, et pourtant les flics, ils ont prévenu qu'ils pensaient que ça allait être un mariage gris. Elle s'est mariée à l'insu de sa famille. Elle a été prévenue, mais elle était tellement amoureuse qu'elle a épousé ce monsieur. Et elle a eu du mal à avoir un enfant. Elle l'a eu au bout de quelques années de vie avec lui. Et maintenant, le bébé, il est mignon comme tout. Il a un peu plus d'un an. Eh bien, à la naissance du bébé, il n'était pas là. Il n'est même pas venu la chercher. Il l'a laissé.
Et il l'a laissé, d'accord.
Il l'a laissé, voilà. Bon, maintenant, bon, ils sont en procédure parce qu'il faut faire une procédure de divorce. Mais c'est ce que j'ai dit, ça m'offusque, ça. C'est pas normal que des gens agissent comme ça pour venir en France et pour avoir la nationalité française et pour pouvoir rester en France et profiter de ce que des siècles et des siècles, les Français, enfin, plusieurs régions françaises, parce que moi, j'ai bien dit à vos collègues que je ne suis pas française, je suis bretonne.
Oui, bah donc vous êtes française, Annick.
Non, les Bretons ne sont pas français.
D'accord.
Ils sont français par le mariage d'Anne de Bretagne, uniquement.
D'accord.
Hein? Et en plus, on nous a spolié un de nos départements, la Loire-Atlantique. Il y a plusieurs Bretons qui ne sont pas d'accord. Hein?
D'accord. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est-à-dire Nantes appartenait à la Bretagne avant, c'est ça?
Ben, toujours. C'est toujours la Bretagne. J'ai de la famille, moi, à Nantes.
D'accord.
Ah non, hein. Je suis des trois départements, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique.
D'accord.
On est des trois départements. Finistère, bon, c'est à part. C'est ceux qui n'aiment pas les galops. Bretonne-galop, en plus.
Bon, mais revenons-en donc tous bretons, j'ai bien compris.
Oui, voilà.
revenons-en donc à votre amie. Vous pensez que Malika vous écoute, hein.
Oui, vous Malika, que... ben, j'ai pas tout entendu parce que comme je vous ai appelé, mais bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait logique que des gens arrivent comme ça en France pour ne seulement qu'obtenir la vie que nous, nos ancêtres, se sont battus pour ça. On a eu des morts. On s'est défendu, hein. Comme actuellement en Ukraine, les Ukrainiens, ils sont en train de se défendre. Nous aussi, on a eu le même genre de choses. Mais on s'est battu à mort, comme Jeanne d'Arc qui s'est fait brûler, et d'autres.
Mais moi, j'ai une question à vous poser, Annick.
Oui.
Si, là, par l'opération du Saint-Esprit, vous naissiez demain dans un pays où il n'y a aucune perspective, où...
Je me battrais.
Vous vous battriez.
Ah oui, je me battrais. Vous êtes sûr que ceux qui font qui abusent, eh ben, je serais pas d'accord.
Oui, mais c'est souvent plus difficile
que
ça.
Je serais pas une Jeanne d'Arc, je sais pas comment ils s'appellent là-bas, mais je serais une seconde Jeanne d'Arc.
Mais vous savez que ça n'est pas si facile que ça, Annick. Hein. Ce sont des pays extrêmement, extrêmement corrompus.
Et vous croyez que chez nous, c'était facile?
Non, mais on parle d'aujourd'hui, Annick. Hein.
D'aujourd'hui.
Parce que autrement, si on va remonter jusqu'au vase de Soissons, si vous voulez. Et donc, du coup, là, on va refaire l'histoire. Aujourd'hui, vous ne convenez pas du fait qu'il y a des gens qui veuillent accéder à une vie plus en sécurité, même, parce que quand on vit dans un pays...
Mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas qu'ils viennent abuser...
Complètement.
...de ce que nos familles ont construit par des morts, par des trucs et tout.
Moi, ce soir...
Il faut quand même bien le préciser.
Moi, ce soir...
Et par des paiements, parce que quand même, on a des charges sociales, on a institué quelque chose bien. Et ce n'est pas aux autres de le dire. Comme j'ai dit à votre collègue tout à l'heure, à Florian, j'ai dit quand même, ce n'est pas normal qu'en France, il y a plus de gens qui bénéficient de la sécurité sociale parce qu'il y a plus de cartes vitales, et même il y a quelqu'un, pour 70 enfants, il touche les allocations. Vous trouvez ça normal? Vous n'avez pas entendu
bon,
ça hein.
Si, j'ai entendu.
Il y a des limites à la chose, à la connerie humaine. Hein.
Non, j'entends complètement.
J'ai un ami autrefois, dans les années 60, il avait une société. Hein. Bon, c'était une société, une petite société, bon père de famille. Hein. C'était dans la région lyonnaise. Et il y avait, comme autrefois, vous savez, il y avait des maghrébins qui venaient travailler en France. Hein. Et un jour, il dit à son patron, je vais retourner en vacances au pays. Retour, je ne reviendrai pas travailler parce que vous allez recevoir un arrêt de travail. Bon, comme il savait qu'il était tout seul en France, eh ben, ce patron, bon père de famille, est allé le voir à l'hôpital. Et c'était pas lui qui était dans le lit, c'était son cousin. Et qui payait? Eh ben, c'était les Français pour quelqu'un qui n'a jamais cotisé en France.
Bon, d'accord.
Il y en a plusieurs comme
Annick,
ça.
Annick. Ok. Oui. La seule chose, c'est que ça n'est ni l'endroit ni le temps d'une émission. Je pense que chez Pascal Pro, je pense que vous pouvez appeler tous les jours Pascal Pro pour ce genre de problème. La libre antenne est plus faite pour des questions humaines un peu.
C'est une histoire humaine.
C'est une histoire humaine.
Je suis d'accord avec vous.
Je pense, Malika, vous m'entendez toujours?
Oui,
Malika. Bon, bonjour, voilà. Malika.
Et je pense l'une comme l'autre, ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est que on parle surtout dans l'histoire que vous nous racontez l'une comme l'autre, on parle d'une malhonnêteté du cœur, hein, et on s'arrête à ça ce soir parce que après partir sur tous les gens qui arnaquent,
je pense que vous savez,
y a aussi des bons Français qui font exactement la même chose et qui arnaquent les institutions et il suffit pas d'être d'origine maghrébine ou noire pour avoir ce
d'autres.
Type d'instinct, croyez-moi Annick, par connaissance donc voilà, ne faisons pas le procès de ces personnes-là ce soir, mettons-nous bien au cœur de ce que vous nous racontez toutes les deux. C'est comment déceler, comment combattre, comment tirer les enseignements des deux histoires que vous nous racontez toutes les deux, c'est-à-dire des personnes qui osent prôner l'amour, vous voyez, et qui vont tromper d'autres personnes qui, elles, croient au grand amour et qui se servent de ça pour finalement à d'autres desseins. D'autres fins. Et ça, c'est vrai que c'est triste et que ça peut en plus mettre très en colère finalement.
Ah oui, il faut des lois.
Il faut des lois.
Comment?
Il faut des lois, bien évidemment. Mais je pense qu'il y en a.
Il faut des lois. C'est sûr, faut des lois. Faut avoir des regroupements informatiques pour vérifier ça. Et il faut quand même que l'État français et la police, parce que la fille de mon ami en question, les parents, il y a une enquête et tout. Mais malgré tout, ça a été autorisé. Bon,
pense, vous savez, pour le coup, sur cette antenne, on prône souvent, on souligne souvent les lenteurs de la justice.
Oui, je sais.
Bon,
je connais.
Mais croyez vraiment une chose, c'est que je pense que le président actuel, comme les présidents qui étaient là avant lui et ceux qui viendront après, sont très conscients qu'ils doivent être très pointus sur ce type de questions qui anime beaucoup l'esprit français et qu'on a un armada aujourd'hui juridique qui veille à ce que ce genre de choses. Et croyez-moi, c'est de plus en plus dur, car ce soir, avant de vous quitter, mesdames, j'aimerais souligner un fait, c'est que pour cette dame, Malika, qui a trompé votre frère, et Annick, ce monsieur qui a trompé votre ami, pour ces deux-là, il y en a derrière 100 qui sont vraiment amoureux, qui veulent se marier, et des vraies histoires d'amour qui ne peuvent pas aujourd'hui se réaliser parce que justement la France ne laisse pas rentrer les gens qui vivent des vraies histoires d'amour. Et il est bien là la tragédie est là, la tragédie de ces histoires d'amour est là.
Par contre, c'est les enfants qui sont issus de ces unions-là. C'est l'enfant. Que va devenir l'enfant ? Comment il va vivre ? Humainement, sentimentalement,
écoutez,
faut penser aux enfants.
Bien évidemment. Et
le
après...
gamin, là, je l'ai vu, hein, il est mignon comme tout.
Bon,
il est adorable.
Mais il est avec la maman et je suppose que quand même, ça ira bien. Je vais être obligé de vous quitter toutes les deux. Malika, je suis obligé de vous quitter. Je vous embrasse toutes les deux.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À très bientôt.
Au revoir et portez-vous bien toutes les deux.
Bon courage, Malika, et pour le bébé aussi.
Merci à toi aussi.
Au revoir.
Au revoir.